Chapitre 19. Le commandant Didi Warren et le capitaine Bobby Dodge sont venus me chercher à 11h43. J'ai entendu leurs pas dans le couloir de l'hôpital, vifs et concentrés. J'avais une fraction de seconde. Je m'en suis servi pour planquer le bouton bleu au fond du tiroir inférieur de la table de chevet. Mon seul lien avec Sophie. La dernière chose qui me rappelait, inutilement, que je devais suivre les règles du jeu. Peut-être qu'un jour je pourrais venir chercher ce bouton. Si j'avais de la chance, peut-être que Sophie et moi pourrions le faire ensemble, récupérer l'œil qui manquait à Gertrude et le recoudre sur son placide visage de poupée. Si j'avais de la chance. Je venais de me rasseoir au bord de mon lit d'hôpital quand le rideau de séparation a été violemment écarté et que Didi est entré à grands pas. Même en sachant ce qui allait se passer, j'ai dû me mordre la lèvre pour retenir un cri de protestation. « J'ai perdu mes dents de devant. » Je me suis rendu compte avec un temps de retard que je fredonnais la comptine. Par chance, ni l'un ni l'autre des enquêteurs n'a paru le remarquer. « Tessa Marie-Léonie ?» a commencé Didi. J'ai raidi les chines. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Brian Anthony Darby. Levez-vous, je vous prie. » Encore des pas dans le couloir. Probablement le procureur et son assistant qui ne voulaient pas manquer le clou du spectacle. Ou bien quelques chefaillons de la police de Boston, jamais en retard pour être sur la photo dans une affaire fortement médiatisée. Sans doute quelques gradés de la police d'État aussi. Ils n'allaient pas me laisser tomber tout de suite. J'étais une jeune policière victime de brutalité. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir l'air de manquer de cœur à ce point-là. La presse devait être en train d'arriver dans le parking, me suis-je dit, impressionnée de mon propre détachement, en me levant et en tendant mes deux poignets à mes collègues. Shane, délégué syndical, serait bientôt là. Mon avocat aussi. À moins qu'il ne me rejoigne au tribunal où je serai officiellement inculpée pour le meurtre de mon mari. J'ai eu un flashback. J'étais assise à une table de cuisine, mes cheveux fraîchement lavés sous la douche dégoulinaient dans mon dos, et un robuste enquêteur me harcelait de questions.
« Où donc vous l'avez pris, ce pistolet? Pourquoi donc vous l'avez apporté? Pourquoi vous avez tiré ?»
Mon père, impassible sur le pas de la porte, les bras croisés sur son t-shirt blanc sale, et moi, qui comprenais déjà que je l'avais perdu, que mes réponses n'avaient plus d'importance. J'étais coupable. Je serai toujours coupable. C'est parfois le prix à payer quand on aime. Le commandant Warren m'a allumé droit. Je n'ai pas ouvert la bouche. Que restait-il à dire? Elle s'apprêtait à m'emmener après m'avoir passé les menottes quand elle s'est heurtée à la première difficulté logistique. Je n'avais pas de vêtements. Mon uniforme avait été ensaché et étiqueté comme pièce à conviction lors de mon admission, puis transféré dans l'après-midi au laboratoire de la police criminelle. Je me retrouvais donc en blouse d'hôpital, et même Didi voyait le risque politique qu'il y aurait à ce qu'une policière municipale soit photographiée en train d'emmener de force une policière d'État, amochée et vêtue d'une seule blouse d'hôpital. Elle en a rapidement discuté avec le capitaine Dodge dans un coin de la pièce. Je me suis rassise au bord du lit. Une infirmière, entrée dans la chambre, observait les événements avec inquiétude. Elle s'est approchée de moi. « La tête ? » ?»« J'ai mal. » Elle a pris mon pouls, m'a demandé de suivre son doigt du regard avant de hocher la tête avec satisfaction. Apparemment, j'étais seulement endolorie, pas dans un état critique. S'étant assurée que sa patiente ne courait aucun danger immédiat, elle se retira. « On ne peut pas utiliser une combinaison de prisonniers, » disait Didi à mi-voix à Bobby. « Son avocat prétendra que nous avons influencé le juge en la faisant comparaître en tenue orange. Même problème avec la blouse d'hôpital, sauf que là, ça nous donne l'air de salauds inhumains. Il nous faut des vêtements. Un jean et un pull classique passe-partout. Tu vois l'idée ?» demande à un agent de faire un saut chez elle. A marmonné Bobby. Didi l'a regardé un instant et s'est tournée vers moi. « Vous avez une tenue préférée ?»« Walmart ?» ai-je dit en me levant. « Quoi ?»« À quelques rues d'ici. Un jean taille 36, un pull taille M. J'apprécierais aussi des sous-vêtements et des chaussettes et des chaussures. « Je ne vais pas vous acheter de vêtements, » a répondu Didi avec mauvaise humeur. « On va aller en chercher chez vous. Là-dessus, je me suis rassise. Didi me fusillait du regard. Je l'ai laissé faire. Elle était en train de m'arrêter, après tout. Pourquoi est-ce qu'elle était en rogne comme ça? Je ne voulais pas de vêtements pris chez moi, des effets personnels que la prison de Suffolk County confisquerait et garderait sous séquestre pendant toute la durée de mon incarcération. Plutôt arriver en blouse d'hôpital. Et pourquoi pas? Ça m'attirerait la sympathie des gens, et toute aide serait bonne à prendre. Didi aussi l'avait compris apparemment. Elle a fait venir un agent en tenue, lui a donné des instructions. Le patrouilleur n'a même pas sourcillé quand on lui a demandé d'aller acheter des vêtements de femme. Il est ressorti, me laissant de nouveau seule avec Didi et Bobby. Les autres devaient faire le pied de grue dans le couloir. Les chambres d'hôpital ne sont pas non plus immenses. Autant attendre dehors que le spectacle commence. J'ai démarré un compte à rebours, mais je ne savais pas avant quoi. « De quoi vous vous êtes servi ?» m'a brusquement demandé Didi. « Sac de glace ? Neige ? C'est marrant, vous savez. Hier, j'avais remarqué la tache d'humidité sur le sol du garage. Ça m'avait paru curieux. » Je n'ai rien dit. Elle s'est approchée de moi, les yeux plissés, comme si elle étudiait un spécimen particulier. J'ai remarqué qu'elle marchait avec une main sur le ventre et l'autre sur la hanche. J'ai aussi remarqué qu'elle avait le visage pâle et les yeux cernés de noir. Apparemment, j'empêchais notre chère enquêtrice de dormir. Un point pour moi. Je l'ai scrutée de mon œil valide pour la mettre au défi de regarder mon visage démoli, enflé, violacé et de me juger. « Vous connaissez le légiste ? » m'a-t-elle demandé en changeant de ton comme pour faire la conversation. Elle s'est arrêtée devant moi. De là où j'étais, assise au bord du lit d'hôpital, j'étais obligée de lever la tête vers elle. Je n'ai rien dit. « Ben est doué, un des meilleurs qu'on ait jamais eu, » a-t-elle continué. Un autre légiste n'aurait peut-être rien remarqué, mais Ben adore les détails. Le corps humain est comme n'importe quelle viande, paraît-il. On peut le congeler et le décongeler. Mais ça ne va pas sans provoquer quelques changements de... Comment il a dit ? Consistance. La chair des extrémités de votre mari lui a paru bizarre, alors il a pris quelques échantillons et les a mis sous un microscope, et je ne suis pas trop forte en sciences, mais bref, il a constaté des dommages cellulaires qui correspondent à ce qui se produit quand on congèle des tissus humains. Vous avez tué votre mari, c'est ça, et ensuite, vous l'avez mis au frais. Je n'ai rien dit. Didi s'est penchée vers moi. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Visiblement, vous cherchiez à gagner du temps, il fallait que vous accomplissiez quelque chose. Mais quoi, Tessa ? Que faisiez-vous pendant que le cadavre de votre mari attendait congelé au sous-sol ? Je n'ai rien dit. Au lieu de ça, j'écoutais une comptine qui me trottait dans la tête. J'ai perdu mes dents de devant, mais pourtant maman... Où est-elle ? A murmuré Didi comme si elle lisait dans mes pensées. « Tessa, qu'avez-vous fait de votre petite fille ? Où est Sophie ? Vous êtes enceinte de combien ? » ai-je demandé. Didi a reculé comme si elle venait de prendre une balle, et Bobby, à 2 mètres de là, s'est étranglé. Il ne savait pas, en ai-je conclu. Ou alors il savait sans le savoir, comme souvent les hommes. J'ai trouvé ça intéressant. C'est le père ? Taisez-vous ! M'a rembarré Didi. Alors je me suis souvenue. Non, me suis-je corrigée en regardant Bobby comme si elle n'avait rien dit. Vous êtes mariée avec une autre, depuis l'affaire de l'asile psychiatrique il y a quelques années. Et vous avez un bébé maintenant, c'est ça ? Depuis pas très longtemps. J'en ai entendu parler. Il n'a rien dit. S'est contenté de fixer calmement son regard gris sur moi. Est-ce qu'il pensait que je menaçais sa famille ? Est-ce que c'était le cas ? Peut-être que j'avais seulement besoin de faire la conversation pour éviter de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Par exemple, que j'avais utilisé de la neige parce que c'était relativement facile à pelleter et que ça ne laissait pas de preuves matérielles, comme l'auraient fait une douzaine de sacs de glace vides. Et que Brian était lourd, plus lourd que je ne l'avais imaginé. Tout cet entraînement, toute cette gonflette, juste pour qu'un tueur à gages et moi nous retrouvions à traîner 20 kilos de plus dans les escaliers qui descendaient vers son précieux garage où le moindre outil était toujours à sa place. J'avais pleuré en amoncelant la neige sur le cadavre de mon mari. Les larmes chaudes creusaient de petits trous dans la neige blanche. alors il fallait que j'en remette une pelletée, avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. Je me forçais à me concentrer. Une pelletée de neige. Une deuxième. Une troisième. Il en avait fallu 23. 23 pelletées de neige pour ensevelir un homme. J'avais prévenu Brian. Je lui avais dit dès le début qu'une femme comme moi en savait trop, qu'il fallait se tenir à carreau avec une femme qui sait ce que je sais. 3 tampons pour boucher les plaies par balle. 23 pelletées de neige pour cacher un corps. J'ai perdu mes dents de devant, mais pourtant, maman...
Je t'aime encore plus fort,
m'avait-il dit en mourant.
Pauvre connard d'apprêti.
Je n'ai plus rien dit. Didi et Bobby sont aussi restés silencieux pendant bien 10 ou 15 minutes. 3 membres des forces de l'ordre qui se fuyaient du regard. Pour finir, la porte s'est ouverte avec fracas et Ken Cargill a fait irruption avec son manteau de laine noire qui battait autour de lui, ses cheveux bruns clairsemés, tout décoiffés. Il s'est arrêté net, a remarqué mes poignets entravés et s'est tourné vers Didi avec toute la fureur d'un bon avocat de la défense.
« Mais qu'est-ce que ça signifie ?»«
Votre cliente, Tessa Marie Leoni, est inculpée pour le meurtre de son mari, Brian Anthony Darby. Nous lui avons donné lecture de ses droits et nous attendons maintenant son transfèrement au tribunal. »«
Quel est le chef d'accusation ?»
a demandé Cargill, dûment indigné. « Assassinat. » Il a ouvert des yeux comme des soucoupes.
« Donc, meurtre avec préméditation ? Vous avez perdu la tête ?» Qui a donné son accord pour ce chef d'accusation? Est-ce que vous avez seulement regardé ma cliente récemment? L'œil au beurre noir, la pommette fracturée et, j'oubliais, la commotion cérébrale?
Didi s'est contenté de le regarder et s'est retourné vers moi. Glace ou neige, Tessa? Allez, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour votre avocat. Dites-lui comment vous avez congelé le cadavre.
Pardon?
Je me suis demandé si tous les avocats prenaient des cours de théâtre ou si ça leur venait naturellement, comme aux policiers. Le premier agent en tenue était de retour, à bout de souffle. Il avait dû courir dans tout l'hôpital avec l'énorme sac Walmart. Il l'a mis dans les mains de Didi, qui s'est fait un devoir d'expliquer ma nouvelle garde-robe à Cargill. Elle m'a ensuite détaché les mains. On m'a donné la pile de vêtements neufs, non sans avoir retiré les cintres et autres objets pointus, et on m'a permis de passer dans la salle de bain pour me changer. L'agent ne s'en était pas mal sorti, un jean large, raide comme du carton tellement il était neuf, un pull vert à encolure ras du cou, soutien-gorge de sport, culotte unie, chaussette unie, chaussures de tennis blanc brillant. Avec des mouvements lents, j'ai passé le soutien-gorge, puis le pull, autour de ma tête meurtrie. J'ai eu moins de mal avec le jean, mais lacer mes chaussures s'est révélé impossible. Mes doigts tremblaient trop. Vous savez ce qui a été le plus dur quand j'ai enseveli mon mari ? Attendre qu'il se vide de son sang. Attendre que son cœur s'arrête. Que le dernier centilitre de sang s'immobilise et refroidisse dans sa poitrine. Parce que sinon, il allait goûter. Il allait laisser une traînée, et même si elle était petite, et que je la nettoyais avec de l'eau de Javel, le luminol la révélerait. Alors je suis restée assise sur une chaise dure dans la cuisine. Pour une veillée que je n'aurais jamais cru devoir accomplir. Et pendant tout ce temps, je n'arrivais pas à me décider. Qu'est-ce qui était pire ? Abattre un jeune garçon et m'enfuir avec du sang encore frais sur mes mains ? Ou abattre un homme et rester là, à attendre que son sang sèche pour pouvoir nettoyer correctement ? J'ai mis 3 tampons dans les trous du torse de Brian, par sécurité.
Qu'est-ce que tu fais ?
M'a demandé l'autre. Je ne peux pas laisser une traînée de sang, ai-je expliqué posément.
Oh !
Et il m'a laissé partir. 3 tampons ensanglantés. 2 dents de devant. C'est drôle, les talismans qui peuvent vous donner du courage. J'ai fredonné la comptine, lacé mes chaussures. Ensuite, je me suis relevée et j'ai pris une dernière minute pour m'observer dans le miroir. Je n'ai pas reconnu mon reflet. Ce visage déformé, ces joues creuses, ces cheveux bruns tombants. Il valait mieux. me suis-je dit, me faire l'effet d'une étrangère. C'était parfait pour ce qui allait venir. Sophie, ai-je murmuré parce que j'avais besoin d'entendre le nom de ma fille. Sophie, je t'aime encore plus fort. Ensuite, j'ai rouvert la porte de la salle de bain et j'ai de nouveau présenté mes poignets. Les menottes étaient froides. Elles se sont refermées avec un déclic. C'était l'heure. Didi d'un côté, Bobby de l'autre. Mon avocat fermant la marche. Nous sommes sortis dans le couloir blanc lumineux et le procureur s'est écarté du mur, prêt à mener la procession en triomphante majesté. J'ai vu le lieutenant-colonel, le visage fermé, qui n'a pas détourné les yeux devant son agent menotté. J'ai vu d'autres hommes en tenue dont je connaissais les noms, dont j'avais serré les mains. Ils ne m'ont pas regardé. Alors je leur ai rendu l'appareil. Nous avons parcouru le couloir vers les grandes portes vitrées et la foule hurlante des journalistes qui attendaient de l'autre côté. Se donner de la prestance. Ne jamais leur laisser voir qu'on transpire. Les portes coulissantes se sont ouvertes et le monde a explosé dans un crépitement de flashs blancs.